me tight. Now that she's gone out of my life, who's gonna make me feel the way she used to do? Yeah. Now that...
Listen, darling.
We gotta get out of here. We gotta go. Marlene, go and pick up a cell.
Who's gonna hold and squeeze me tight?
Don't forget about Icon of Soul March 30th, and I see a ticket them gonna come out soon, and see it. So when them ticket come out, people get on the early bird ticket, you know. Don't scream, and you know. So early bird ticket gonna come out start off for $30, and then when the ticket finish, so after that ticket come out, you know, see.
Produced by Zed Galleries, Sharzad Arshadi, and Caroline Kunzli. The title comes from a song by German punk rock singer Nina Hagen. She sings, 1968 is over, it's over. Future is now. It's really going to be a better world. Her lyrics express our feeling that change for a better world is happening right now through the work of many. In each episode, Future is Now will tell you these stories of change, stories of artists and art projects that inspire us. As you listen, we hope these stories will inspire you too.
Future is now.
Allô, allô, bienvenue à Future is Now et notre toute première épisode en français. Je m'appelle Caroline Kunzli et aujourd'hui, toujours sur le thème de la création et du changement social, j'ai le grand plaisir de partager avec vous une conversation avec l'artiste interdisciplinaire Nathalie de Rome. Une pionnière québécoise de la performance underground et la directrice artistique et générale de la compagnie de production Des mots de la dynamite, après 20 ans de création interdisciplinaire pour adultes, Nathalie s'est mise à créer des spectacles pour les plus jeunes citoyens de notre société, les tout-petits de 0 à 5 ans. Et les enfants lui font comprendre beaucoup de choses. Nathalie de Rome nous parle non seulement de son processus de création, où les jeunes deviennent co-auteurs de ses spectacles, mais aussi de comment ces tout jeunes lui ouvrent les yeux sur des questions de préjugés culturels et de racisme. Elle commence par nous expliquer le leitmotiv de sa compagnie. Philosophique plus politique égale poétique.
C'est pas de moi, cette idée-là, c'est de Frank Martel, un poète. Puis je l'ai toujours gardé parce que c'est comme ça qu'il décrivait la compagnie. Puis je trouve que ça décrit bien ce que j'essaie de faire. Je pars souvent avec une question philosophique que j'essaie de voir la résonance dans la société, puis dans le politique, donc. Mais ça s'en va tout le temps. Ma réponse, la réponse que j'essaie de donner se ramène toujours au poétique. Puis je pense que la poésie est, pour moi, le meilleur véhicule pour le philosophique, mais et pour le politique aussi. C'est là où je me sens que je maîtrise le sujet et que ça donne de l'espoir même, je dirais.
Ta compagnie Des mots de la dynamite existe depuis longtemps, depuis 1988, donc ça fait 34 ans.
Ouais.
Mais depuis maintenant 14 ans, je pense, depuis 2008, tu t'es concentrée à créer des spectacles interdisciplinaires pour les tout-petits, donc de 18 mois à 5 ans, et maintenant un petit peu plus vieux aussi, jusqu'à 7 ans.
Oui.
Puis c'est quoi qui a déclenché ce tournant?
Peut-être que j'avais fait un peu le tour de... Bien, mes productions ont toujours été atypiques et dans l'underground, et le circuit québécois est assez restreint quand même. Puis j'aimais jouer dans les galeries, j'aime jouer dans les bars, mais ça reste que il y avait quelques diffuseurs alliés qui permettaient de jouer les spectacles en salle, mais ça restait assez limité. Puis c'est un article dans Le Devoir qui parlait de travail interdisciplinaire. pour les petits. Puis je voyais que ça avait un... En tout cas, de la façon dont ils en parlaient, il y avait un lien avec la performance qui est quand même l'origine de mon travail. Puis ça m'a touchée, ça m'a intriguée. Il y avait une espèce de conférence qui était donnée à la Maison Théâtre. Fait que je suis allée, puis ensuite j'ai demandé, il y avait un stage pour la création, travail en direction des tout-petits en France, à Reims, pendant un festival. Puis je suis allée, puis ça m'a... Pour moi, ça a été comme une révélation dans le sens où j'ai vraiment découvert que le public des tout-petits, souvent je le dis à la blague, mais je pense que c'est vrai. C'est comme jouer dans un bar, mais personne n'est sous. Les enfants sont très spontanés. Ils disent tout de suite si ça leur plaît ou ça leur plaît pas avec leur corps. Parfois, quand ils sont très petits, si. Là, je reviens de Belgique. J'ai joué pour des 0 à 4 ans. Fait qu'ils vont pas l'exprimer avec des mots, mais c'est très direct comme réaction. S'ils ont peur, ils vont pleurer. S'il y a un malaise, ils vont l'exprimer. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette façon-là de dialoguer avec un public. Puis ça fait en sorte qu'on peut être dans une... Ça oblige à être dans une présence performative, c'est-à-dire de dealer avec... ici, maintenant. Et depuis que j'ai commencé dans ce secteur-là, j'arrive pas à arrêter. J'avoue que des fois, je m'ennuie des adultes, mais je reviens toujours aux tout-petits. J'ai pas terminé de chercher dans ce domaine-là. Ils m'apprennent vraiment beaucoup sur le jeu, sur la façon de jouer, sur le plaisir de jouer et surtout sur ce que c'est de jouer. On l'oublie quand on devient adulte. C'est quoi jouer? Pour moi, ce sont de grands maîtres de jeu, de mise en scène, de théâtre, au fond.
Et c'est quoi, alors, jouer?
C'est justement de faire confiance au présent, de faire confiance à nos intuitions à la seconde près. C'est de ne pas mentir, surtout de ne pas mentir à ce qui arrive, de ne pas cacher, parce que le théâtre ou la représentation théâtrale, il y a tout un aspect de cachette, de fiction. Mais les enfants te ramènent à la vérité. Et moi, ça, je trouve ça très, très politique, dans le sens très... j'allais dire révolutionnaire, c'est pas ça le mot que je cherche, mais subversif.
Tu m'as déjà dit que quand les enfants ils vont au théâtre, les tout jeunes, qui c'est souvent leur première expérience d'aller dans un théâtre et de vivre ça, et que c'est un petit peu les initier à une expérience de citoyen. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu entends par ça?
Oui, c'est pas toujours facile. Évidemment, les salles de représentation conventionnelles, il y a un aspect presque morbide. On est dans un dédale, on est dans le vraiment dans un labyrinthe. Il fait noir souvent. C'est trop grand pour eux. C'est immense. On marche des kilomètres dans des corridors noirs. C'est horrible, au fond, là, ce qu'on leur fait vivre. C'est notre responsabilité de porter attention aux conditions d'accueil. On demande le soutien des diffuseurs. Au début, quand j'ai commencé, il y avait, je trouve, il y avait plus le souci de la clientèle, des besoins de la clientèle. Maintenant, ça s'uniformise. On dirait que là, ils en ont assez fait. J'exagère, là, il y a des diffuseurs spécialisés qui font vraiment attention aux enfants, mais des fois, on a l'impression, ben non, ils ont compris. C'est tellement une autre expérience que la télévision
oui.
ou que l'Internet. On est ensemble, ils sont ensemble. et ils vont ensemble à cette espèce de communion qui est le spectacle. Alors, c'est un moment important, d'où peut-être notre responsabilité de leur faire attention. Puis, pourquoi je parle de citoyen, d'expérience citoyenne, ben c'est ça quand même, quand on devient adulte, c'est de considérer les autres, considérer l'environnement, considérer la diversité aussi des goûts, des choix. C'est un peu dans ce sens-là que je pense à ce mot-là.
Non seulement tu joues pour des tout-petits, mais comment ça se passe, le processus de création, quand les jeunes sont impliqués d'une certaine façon et deviennent des co-auteurs de la pièce?
Oui. En tout cas, tous les spectacles que j'ai créés pour les petits, je les ai faits en intégrant des activités de médiation culturelle. Donc, on écrit le spectacle avec les enfants. On arrive avec nos grandes questions philosophiques, comme j'arrive avec mes questions pour les collaborateurs. J'ai pas la réponse, puis on essaie d'y répondre tranquillement. C'est sûr que les petits vont pas répondre encore là avec le langage ou avec des réponses dont on s'attend, mais ils répondent tranquillement à leur manière. Souvent, j'avoue, là, je vais voir les petits à qui ça s'adresse en garderie, mais des fois, je vais voir des un peu plus grands, comme des maternelle ou des premières années. Comme ça, j'ai vraiment des réponses orales. Mm-hmm. Puis ça m'aide à figurer. Je leur demande carrément. Je leur dis, je fabrique un spectacle pour ton petit frère, ta petite sœur. Aide-moi. Rappelle-toi quand tu étais petit. Puis ils vont me répondre. Parfois, c'est de la pure poésie. Puis c'est incroyable, les réponses. Puis avec les réponses, on va sentir si on prend la bonne direction ou pas, si ça intéresse les enfants ou pas. Parce que, justement, avec nos yeux d'adultes, encore une fois, on a oublié qu'il y a des choses importantes qu'on a oubliées dans la dramaturgie, dans la façon de voir la réalité, ou en tout cas l'illusion. Et les perceptions des enfants m'aident beaucoup, beaucoup à comprendre si on va dans le bon chemin ou pas. Mm-hmm. Je le raconte des fois, mais j'avais trouvé ça tellement beau dans une classe de maternelle, je pense, ou première année, je me souviens plus. J'avais demandé, c'est fait en quoi? C'est pas philosophique, mais quand même, c'est fait en quoi un nuage? Puis un petit garçon me dit, c'est de la fumée. Ouais, OK, bonne idée. Puis un autre dit, non, c'est pas de la fumée, c'est de la glace. OK. Tout d'un coup, une petite fille qui venait du Bangladesh ou de l'Inde, je sais pas, elle s'était retournée vers moi, puis avec ses yeux si perçants, elle m'a dit, moi, je vais te le dire, des nuages, c'est des squelettes de toutous. Mais ça, j'appelle ça une perle. C'est quelque chose que, aïe, 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 juste le fait qu'elle m'a fait confiance, qu'elle n'a pas essayé de répondre de façon scolaire, mais de vraiment me partager son univers créatif. Oh, pour moi, ça, c'est un cadeau incroyable. C'est vraiment une perle. Puis je l'ai intégrée dans une chanson qui parle des nuages. Dans le spectacle « C'est ma sœur », la fin de la chanson, je raconte ça, que la vie est douce comme un squelette de toutou.
Il est d'usage à mon âge d'avoir la tête dans les nuages. Un cirrus, un cumulus, je vois passer un lotus. Dans un ciel plein de barbouillage, j'imagine tous les trucages.
J'imagine tous les trucages.
Quand arrive le gros Nimbus, une puce joue du Stradivarius.
Stradivarius.
Il est d'usage à mon art d'avoir la tête dans les nuages. Un Cirrus, un Cumulus. Je vois passer un cactus.
La tête dans les nuages, une chanson provenant du spectacle interdisciplinaire C'est ma sœur, produit par Démo de la Dynamite, la compagnie de production de l'artiste Nathalie de Rome.
Future is now.
Vous écoutez Future is Now. Je m'appelle Caroline Künzle. Aujourd'hui, je parle avec l'artiste Nathalie de Rome de ses rencontres avec son public, les très jeunes enfants de 0 à 5 ans. Dans cette deuxième partie de l'entrevue, Nathalie m'explique tout ce qu'elle apprend depuis qu'elle fréquente les garderies du quartier très multiculturel de Parc Extension à Montréal. Donc maintenant, quand tu travailles avec les petits dans les garderies ou dans les écoles, ça te permet aussi de connaître des différents quartiers de Montréal et donc aussi de rencontrer toutes sortes de monde de la diversité culturelle qui est nos écoles et nos garderies. Ça fait maintenant longtemps, mais est-ce que tu peux m'en parler un peu? Comment ouais. ça a été cette rencontre pour toi?
Au début, j'habitais dans le centre-sud, alors je suis allée dans une garderie tout près de chez moi dans le centre-sud. Ça a été extraordinaire. C'est là où j'ai fait mes premières armes. On essaye hein, des affaires des fois. Je me souviens, à ce moment-là, c'était le spectacle de l'arbre. C'est le premier spectacle que j'ai créé. Puis on pratiquait dans le sous-sol de la garderie. Alors, on travaillait des petits segments de la pièce. Puis on allait les présenter à des 1 an, à des 2 ans, à des 3 ans. Puis là, on avait un feedback. On pouvait voir si on... L'inquiétude, c'est souvent de leur faire peur. Mais ça, c'est un faux problème. Mais depuis quelques années, je travaille dans Parc Extension, puis j'arrive pas à m'en aller de Parc Extension parce que je trouve que c'est un quartier extraordinaire au niveau de la diversité culturelle. J'ai des Africains, des Jamaïcains, j'ai des Bangladesh, j'ai des gens de l'Inde. Je pense que des Québécois pur laine, par groupe, je dois en avoir un ou deux. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment surprenant pour une petite blanc-bec québécoise comme moi. Mais c'est extraordinaire parce que eux, ils me remettent à l'ordre quand je fais des erreurs racistes parce que je considère qu'on est tous racistes ou en tout cas qu'on a des préjugés envers les autres races. Puis ils en laissent pas passer, puis je trouve ça fantastique. Comme il y a 3 ans, quand on créait le spectacle C'est ma sœur, c'est un spectacle où il y a une petite famille, 3 animaux très différents, disparates, mais bon, qui s'aiment, qui s'aiment pas, qui s'haïssent, qui jouent des tours. Et dans le spectacle, à un moment donné, les 2 grands frères et sœurs jouent un tour à la plus petite avec un loup. Un grand loup avec des grandes dents. Bon, les enfants, à partir de 2 ans et demi, ils adorent jouer au loup, à la cachette. Alors, on jouait beaucoup avec ça, la cachette, l'illusion et tout. J'avais créé, dans le cadre des activités, des petits loups. En théâtre, c'est des masques de carnaval, mais on leur avait fait des oreilles. Fait que c'était des loups noirs, tenus avec un bâton. C'était un matériau plastique. De l'autre côté, c'était blanc. J'avais collé le bâton avec mes acolytes. On avait collé les bâtons du côté blanc avec un morceau de tape. Mais là, on arrive à la garderie, puis le premier groupe, curieusement, je remarque que les enfants de race noire portent le méchant loup du côté blanc. Puis je me dis, ah, ben ils sont trompés. Pas grave, c'est des petits de 3 ans et demi. Après, le deuxième groupe, la même chose, le même phénomène. Le troisième groupe, le même phénomène. Mais là, j'ai compris. J'ai dit, non, mais on est-tu niaiseux? Parce que pour les enfants de race noire, le méchant loup, il est pas noir. Il est blanc. Puis c'était évident pour eux que le méchant loup, il est blanc, mais pas pour nous. Pas pour nous, de Caucasiens qui ont été élevés avec des méchants loups. Ils sont tous noirs, nos méchants loups, mais c'est totalement un attribut...
C'est la suprématie blanche.
Oui, c'est totalement un attribut raciste dans le sens... Qui a dit que le méchant loup était noir? Fait que j'avais eu vraiment encore là une espèce de choc culturel de oh, merci et excusez-nous. Je ne l'ai pas adressé aux enfants, mais je l'ai adressé aux éducatrices. Il y a plusieurs éducatrices de race noire, puis je leur ai écrit à la fin du projet pour dire on en a appris une bonne, tu sais, qu'on n'est pas à l'abri des préjugés. Il y a 2 semaines, je suis retournée je suis encore en médiation dans Parc Extension, puis je présentais un petit spectacle que je viens de jouer en Belgique, un spectacle fait pendant la pandémie qui s'appelle Biblibum. C'est un hommage à la lecture. Alors, c'est toutes sortes de bricolages faits avec des livres, des couvertures de livres, il y a des paysages et tout. Puis dans un des livres, il y a un petit personnage qui s'appelle Biblibum, qui est une petite fille qui a son lit dans le livre. J'ai creusé un livre, puis j'ai fabriqué un petit lit. Fait qu'elle sort du livre, puis c'est un petit personnage que Gigi Perron avait fait. Gigi Perron, c'est une artiste en art visuel avec qui on collabore souvent. La jeune fille, la petite poupée, elle est blanche, visiblement, puis elle a des grosses joues rouges. Puis un enfant noir, pendant le spectacle, a crié « Ah, qu'elle est laide! Elle est laide! » au moment où elle sortait du livre. Fait que, puisque je suis en performance, je me suis permis de demander « Mais pourquoi tu la trouves laide? » Ça m'a surpris parce que c'est la première fois que j'avais un tel commentaire envers Biblibum. Puis il dit « Ben parce qu'elle a des grosses joues rouges, c'est laid. » Ce que j'ai fait, j'ai ramené Biblibum vers moi là, en jouant. J'ai dit, parce que là, Biblibum m'a dit « Oh non, je veux pas y aller, personne va m'aimer. » Comme si c'était son premier jour d'école. Là, j'ai dit « Non, non, tu vas voir, il y en a qui vont t'aimer. » Je voyais les yeux de petite fille qui, elle, avait l'air, lui souhaitait plutôt la bienvenue. Puis, j'ai dit, non, non, vas-y, tu vas voir, aie confiance, ils vont t'aimer. Puis là, Biblibum est retourné jouer. Puis l'enfant s'est calmé, puis c'était pas grave. Puis à la fin du spectacle, il m'a dit, ah, j'ai aimé ça, le spectacle. Tu sais, fait que je me suis dit, bon, je l'ai convaincu. Mais tu vois, ça, c'en est un exemple de jouer dans un bar où personne est sous. Ça arrive des fois des commentaires comme ça qui font, « Ouais, boy, qu'est-ce que je fais avec ça? » Si j'étais en théâtre, je me permettrais pas d'improviser. C'est parfois dangereux parce que tu peux perdre l'attention, tu peux perdre le contrôle de la salle. Tu sais, ils peuvent se mettre à chahuter ou quoi que ce soit. Mais je suis rendue, j'ai quand même assez de métier pour... Des fois, je me trompe, je l'avoue, mais... En général, assez de métier pour pouvoir naviguer avec ce qui se passe, puis pouvoir replacer la salle pour dire « OK, je t'ai répondu, mais là, laisse-moi continuer, tu sais, puis... » Fait que ça, j'aime ça beaucoup. Puis tu vois, à ce moment-là, je me suis dit « Ouais, c'est vraiment arbitraire que Biblibum, ma meilleure amie, elle soit blanche. » elle pourrait être de bien d'autres sortes de couleurs. Tu sais, je vais y repenser pour la... Si je reprends le spectacle, je vais peut-être aller vers... Mais là, quelle nation, sans blesser une nation? Oui. Je sais pas, mais je verrai. Je me souviens, moi, que quand j'étais très petite, j'avais eu une poupée noire, puis je l'adorais. C'était comme dans les années 60, là, c'était quand même rare. Mm-hmm. Ben peut-être pas aux États-Unis, mais au Québec, d'avoir une poupée noire. Puis pour moi, c'était vraiment spécial.
Est-ce que tu collabores un peu avec les éducatrices et les enseignants dans les spectacles aussi? Est-ce que vous parlez?
Elles n'ont pas le temps, non. Elles n'ont pas le temps, ces femmes-là. Je les trouve tellement courageuses. Elles sont contentes de nous voir. Elles nous font des petits commentaires pendant les ateliers. Elles nous aident beaucoup aussi, parce qu'évidemment, nous, c'est très difficile de connaître. Comme là, en ce moment, j'ai 120 enfants en 3 jours. Connaître les noms des enfants, c'est impossible. Parce qu'il y en a 120, mais aussi parce que c'est des noms que je connais absolument pas. Je fais de la dyslexie. J'écoute le nom comme il faut, mais je l'oublie tout de suite. Alors, elles sont présentes, puis elles nous aident à donner l'atelier. En tant qu'artiste, je peux dire qu'on a fait toutes sortes de gaffes. On évalue parfois mal l'âge des enfants ou la petitesse des locaux où on veut faire tel ou tel exercice. Alors, elles arrivent à nous aider là, sur le plan de la pédagogie, là, de dire, OK, on va diviser le groupe en 3, puis OK, on va faire ça comme ça. Tu sais, parce que des fois, je me sens toujours débutante. Tu sais, j'ai évidemment pas étudié en pédagogie, puis j'ai beau avoir des bonnes intentions, le soutien des éducatrices et des professeurs, c'est extraordinaire. Mais on apprend. Hein. Ouais, c'est sûr que si elles avaient plus de temps, on apprendrait peut-être un peu plus vite, mais à l'usure, on apprend.
Oui. Ouais. Et puis quand vous faites des ateliers avec les enfants, ça se déroule comment?
Bien, on joue à toutes sortes de choses. Bien, comme je disais, quand on est en création, ça arrive parfois qu'on présente au début de l'atelier un petit extrait de 5 minutes de à quoi on joue, nous, dans notre local, quand on répète. Je pense au spectacle de l'arbre où il y avait 6 sapins sur scène. Ensuite, on traduit puis on joue avec les enfants à ces jeux-là. On faisait justement des jeux de cachette derrière les sapins. On leur a apporté chacun un sapin en carton qu'ils ont décoré. Ça fait un atelier. Ensuite, avec lequel ils ont joué. On joue à la cachette. On joue les nuages. On avait fait avec un rétro-projecteur. On faisait coucher les enfants par terre. Puis on projetait des morceaux d'acétate, des affaires qui se promènent. Dans le spectacle, un des personnages voit plein de choses. On se met à voir des choses dans les nuages, comme un jeu d'enfant qu'on a tous fait et même qu'on fait encore en tant qu'adulte, de voir un tracteur, un avion, un je sais pas quoi, là, d'inventer un dragon dans les nuages. Fait qu'on a joué avec cette féerie-là. Nous, on le fait de façon vraiment bricolée, là. C'est pas Walt Disney, notre affaire. C'est vraiment des petits objets qu'on met sur le rétroprojecteur puis qui se promènent dans le ciel, tu sais. Ça marche bien. En général, tout ce qui est exercice de yoga ou de méditation, les enfants aiment beaucoup ça. Ce que je pense, c'est que ça leur fait un temps où, justement, ils n'ont pas la pression d'apprendre, mais plutôt d'être présents. Peut-être que je le dis, puis c'est biaisé, parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école. Je me suis sauvée de l'école très longtemps. C'était vraiment un problème. J'aimais pas ça du tout, du tout. Puis j'ai toujours gardé une espèce de méfiance face à l'école. Alors, j'essaie de pas reproduire ça avec les enfants. J'essaie de faire « Hey, on est juste là ». Je fais la même chose dans les locaux de répétition. On n'a pas à performer, on a juste à être bien, mais à être présent. Puis c'est un peu à ça que je joue avec les enfants. On fait donc des arts plastiques, de la danse, de la musique, du théâtre. des fois juste rien. Même en garderie, je trouve qu'ils sont tellement enrégimentés. Les horaires sont très sérieux. On mange à telle heure, on fait ça à telle heure. C'est-tu possible d'avoir un espace vide dans une journée, mais d'être ensemble, d'être quand même ensemble? Plus j'en fais, plus je me dis non, less is more dans ce genre de trucs-là. Puis c'est ça, faire de l'art, tu sais. Mon père, qui était un artiste, m'a toujours dit, quand on fait de l'art, il faut gaspiller, puis il faut perdre du temps. Puis si on ne peut pas perdre de temps, bien, on n'est pas dans une rêverie poétique. Encore là, c'est philosophique, mais aussi, c'est politique. On n'est nulle part.
Touche pas à ma cachette. C'est ma maison secrète. Ici, je ne suis pas inquiète. Je peux observer la planète. Et moi, je trouve qu'elle est parfaite. Même s'ils disent qu'elle est muette. Elle est pas muette, la planète. Ben voyons. Elle nous envoie plein de signaux, mais on les écoute pas. Touche pas à ma cachette.
Une chanson du spectacle « C'est ma sœur », conçue pour tout petit et chantée par l'artiste Nathalie Derome. Je veux remercier Nathalie d'avoir pris le temps de partager ses réflexions avec nous sur son travail de création avec les plus petits de notre société. Pour en savoir plus sur Nathalie Derome et son travail de création interdisciplinaire, vous pouvez aller voir le site internet de sa compagnie www.desmotdeladynamite.com. Je m'appelle Caroline Künzle et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de notre balado sur la création et le changement social « Future is Now ». À la prochaine!
You've been listening to Future is Now, a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Gallery's Sharzad Arshadi and Caroline Künzle. This project was made possible by funding from the Canada Council for the Arts.
Future is now.
News sucks, we know. So why not join us for a cool show? Exploring the state of Canada's Chris Media landscape this Saturday, January 13th. It's at the St. Jack's Center in downtown Montreal. It's the inaugural edition of the Harbinger Showcase live podcast recording series. Come and hang out with Rob Russo, Harris Marks, and Nashua Khan. It's a media criticism panel combo with special guests from Palestinian Youth Movement, Reach Media, Sierra Club Canada, and more, plus an after party connecting left journalists and activist communities. It's like Canada Land, but anti-Zionist. Hopefully see you there.
Le 25 janvier, à 20h, la Cinémathèque québécoise présente Gashrat. Gashrat, c'est Kelly, Tara, Chelsea et Gabby. Gashrat remet les pendules à l'heure. Gashrat se souvient d'un Montréal disparu. Gashrat est la convergence d'esprits qui se méritent. Gashrat est un groupe de rock. Gashrat est de retour le temps d'un concert, pour un soir seulement. Procurez-vous vos billets dès maintenant au cinémathèque.qc.ca. Une co-présentation de la Cinémathèque québécoise et de CKUT.
MPV, à l'occasion de la fête de Saint-Valentin, vous présente la troisième édition du Gala de l'amour avec Pierre-Michel Ménard, Mireille Filouska, Georgette Isidore. Le maître de cérémonie Yvon Chéri vous transportera au paradis de la passion dans un récital de poésie d'amour. Défilé de robes de mariée, show de danse, Didier Dadimix, Black Power de Montréal vous fera danser au rythme du bon compas. Le Gala de l'amour aura lieu le samedi 10 février 2024 au complexe La Providence, 6566 Jarry Est. Les portes seront ouvertes à 17h pour le cocktail. Le gala débutera à 19h. Repas 5 services. Participation 130$. VIP en limousine 200$. Commandité officielle Alix Toyota. Patronné par Magnus Poirier. Ligue Soccer Rochem. Maître Suzy Jean Notaire. Cabinet d'immigration Hercule. Lunaire Saint-Louis et Paul Toussaint. Et Vision Max Service. Pour information et billets, 514-250-2272.
Would you be interested in switching your internet service providers to a provider that provides better service of internet service providing than your current provider?
As we're down the street, radio stars are alive and well here on CKUT 90.3 FM in Montreal. Thanks for listening.
Future is...
Future is Now is a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Galleries, Sharzad Arshadi, and Caroline Kunzli. The title comes from a song by German punk rock singer Nina Hagen. She sings, 1968 is over, it's over. Future is now. It's really gonna be a better world. Her lyrics express our feeling that change for a better world is happening right now through the work of many. In each episode, Future Is Now will tell you these stories of change, stories of artists and art projects that inspire us. As you listen, we hope these stories will inspire you too.
Future is now.
Hello, and welcome to Future Is Now. I am your host, Caroline Kunzli, and in today's episode, we'll be hearing from artist J.J. Levine and their exhibition, Queer Photographs. J.J. Levine is a Jojage, Montreal-based artist working in intimate portraiture who balances a radical agenda with a strong formal aesthetic. His Montreal exhibition at the McCord Stewart Museum, J.J. Levine, Queer Photographs, questions the representation of traditional binary gender roles through staged photographs of queer subjects in intimate domestic settings. I recently had the opportunity to walk through the exhibition with JJ, and he described some of the portraits and talked to me about the inspiration and motivations behind these works.
My name is JJ Levine. I'm a Montreal-based artist, and this is my exhibit, Queer Photographs. This is the most recent piece. Miwa 2021, I made it for this exhibit, and it's part of my Queer Photographs exhibit and the Queer Portraits project. And there's a video that the McCord Museum made about my art practice, and in that video I am doing the photo shoot that this image is a result of. So the exhibit is divided into three separate series, and in the room to the right we have on the middle wall Switch, which was shot in 2009. It's the oldest project in the exhibit. And the black wall surrounding this central wall with Switch, we have Alone Time. And that project is like thematically connected to Switch. In Switch, we have these kind of like prom-style photographs of conventional heterosexual couples, and the photographs are presented in diptychs. And on the left-hand side, you see two different models, and on the right-hand side, it's actually the same models, and their gender is switched from one image to the next. Whereas in Alone Time, usually there's just two characters in each photograph, and the characters are portrayed by the same model. So I'm showing these like very polarized gender presentations and their photo montages. So my goal is to make these convincing, seamless images that appear to be two people intimately interacting, when in fact it is a photo montage of one person interacting with themselves. This image is the only one in the series that features more than one model. It's Alone Time 19. It's the most recent image. I made it during an artist residency in Quebec City. In this image, we see a conventional family, like a nuclear family with heterosexual parents and twin boy and girl. And they are, of course, portrayed by one adult and one child who are playing these four characters. Well, this is an example of a shoot that took around 14 hours consecutively.
Okay.
It's a long time, 18, and it's an image that I conceived of many years before actually executing it. And it's, yeah, just an example of one of the images that is extremely laborious to execute.
Can you describe the image a bit and explain why?
Sure. So we have like a kind of dominatrix and sub, either partner or client, in this kind of like dungeon setup. And in this image, of course, I'm talking about like power dynamics and gender dynamics in between these two characters, and kind of, you know, switching up that power dynamic as the female character in this image is the one in control.
Is this one also the same person?
Yes, exactly. Yeah.
The male and the female.
Exactly. Yeah, exactly. And I'm using, you know, maybe there's like four or five negatives in this image that we're looking at, though the collage is seamless. So my goal is for it to look like it is just one single image that was captured in one moment. And part of why it takes me so long is because I shoot one side and the other side in the same day.
Right.
Because when I'm setting up my studio equipment, if anything moves between one frame and the next within the studio, then it will make my photo editing job a lot more complicated after the fact. And this project, as well as all my other projects, are shot on film. This is the only one that has a real like digital intervention. And I think it's important to note also that the digital intervention is solely the collage and not at all the characteristics. Mm-hmm. So I'm not altering anything about the bodies of the people in the image, just really like creating this photo montage by layering many different negatives. Mm-hmm. So the rest of the exhibit is my queer portraits project. This project started in 2006. So in this series, I'm photographing my friends, my lovers, my siblings, my child, my friends' children, and the people that I'm closest to. And in each image, I create a studio within the home environment. And so what maybe appears to be natural is, in fact, extremely staged.
Right.
Like in my other work. So in, you know, many of these images, I'm talking about the idea of family and queer family and chosen family and, you know, alternative ways of parenting and alternative ways of living and having community. And I'm celebrating the idea of chosen family. So my projects that are featured in this exhibit all address ideas around identity, specifically queer identity and gender identity. And my queer portraits project really focuses on the idea of community and chosen family, as well as gender and sexuality and, you know, queer ethos.
And why was it important for you to delve into these in a detailed way through the work?
Yeah, I mean, I think that I use my image-making process to talk about ideas that are personal and close to me and my own identity. So in making images about chosen family or about queer community or about, you know, gender perception, I'm really exploring my own identity in my work.
In all of these photo series, there's a representation of queer subjects in domestic scenes or situations. Sometimes we see them as a family or in their homes. Sometimes we see them going out, like the one where they're all people are dressed up to go to a prom. And obviously showing these images in a public space that's also like a mainstream museum is important. Can you talk a little bit more about that? Like, what is the importance mm-hmm. of representation of queer identity and other identities?
Yeah, so I think that for me, the idea that my work is in this, like, you know, big public institution is a way of people accessing it who maybe wouldn't necessarily already be implicated in this community. And I think that's really important. You know, my work has been shown many times in more niche kind of contexts. And I really like the idea that, of course, you know, people who identify with my work can come see it in this space and ideally feel validated. But I also am really interested in accessing the general public. And so if people are coming to this exhibit who maybe don't identify as queer and don't have much context for the people in the work, I think that is, like, hopefully a moment for some kind of transformation. And, like, I really want the viewer to leave the exhibit, you know, thinking or feeling something differently than they did coming into it. And I think having the opportunity to show my work in this context really, like, broadens that possibility.
I was wondering if you could talk more about the idea of family. We have this, in general mainstream society, this very heteronormative mm-hmm. idea of mm-hmm. what a family unit looks mm-hmm. like, and you break that through these images. And you mentioned also the idea of chosen family. Uh-huh. If you could talk some more about what mm-hmm. that means to you.
For sure. So, I've been using the word family to talk about my portraits for a very long time, long before myself or any of my friends had kids. And so for me, the idea of family is really, you know, the people that we choose to spend our lives with. And in my case, you know, most of those people identify as queer, but that doesn't necessarily apply to everybody. And I think chosen family and community are such, like, strong and important concepts in my life and in the lives of so many other people. And so by talking about chosen family, I'm really, like, trying to celebrate this idea that there are many different ways to have a family, and there's many different understandings of the word family. And sometimes that means, like, raising a child with a friend, and sometimes that means raising a child in a queer relationship. For me, it's, like, really up for interpretation, and it could just mean, you know, two friends who have chosen to spend their lives together. And in a queer context, often our exes are our family, our chosen family. And yeah, so just trying to, like, redefine the word family and think about ways in which, you know, this kind of mainstream notion that a family is, like, a mom and a dad and 2.5 kids, you know, like, trying to break that idea.
Yeah, I mean, even personally, as someone who doesn't identify as queer, I find very oppressive, mm-hmm. actually, just that, like, our whole society is very much organized around this as an ultimate aspiration.
Absolutely.
And also just economically, everything is organized around it. So totally. When you're not, you don't fit into that box, society can be very alienating.
Totally. Totally. Like, that kind of expected life trajectory is, like, can be so oppressive to so many people, regardless of how they identify. And so for me, by, like, celebrating these kinds of, like, non-normative life arrangements, I'm, like, trying to make some space for the ways that we have families outside of that. Mm-hmm. Especially because, like, those specific heteronormative family structures are, like, as you said, they're kind of at the top of the hierarchy of like, family in our society.
Mm-hmm. Would you say the idea of family and the idea of community, are they very similar or...
Yeah, for me...
Or different?
Like, for me, they're completely linked.
Okay, yeah. Yeah. Just basically, as you say, people we choose to spend our time with and yeah. share our lives with.
And I mean, I remember when I first had a child, people saying, wow, like, how does it feel to, like, have a family now? And I found that question so jarring because, of course, my friends are my family. I was living with the same roommates for, you know, more than 10 years. And that was and still is my family. Mm-hmm. And so to be somehow seen differently once you have a child in this, like, context of, like, the word family was very strange for me and kind of disarming. And even I kind of received a comment from somebody at one of my exhibits where I had images of my child and other parents with their children, as well as individual friends of mine. And the person, you know, asked me, we see images with, like, parents and children, and I get it, like, the exhibit is called Family, but why the individual portraits? And I was like, okay, this is so central to my project and to my work. So this idea that you can't have a family unless you have a child is, like, so outside of what I was trying to convey. And so, yeah, for me, that was, like, really kind of an eye-opening moment.
Mm. Yeah. I mean, having a child does change things. It doesn't mean you didn't have a family before, totally, but it does change things. It does open your eyes to certain things going on in society. I wanted to ask you a little bit more about that. You're a parent. You have a child that's in kindergarten, right? And I was wondering if you could speak about what kinds of conversations are you having with your child at their age about sexual identity, about gender identity. I know that from where I'm standing, I feel like things have changed a lot since even a generation ago. I think there is more fluidity in people's understanding, especially in children's. I wonder if you could speak more to what you've experienced as a parent, as somebody who obviously interacts with other parents at school and whatnot.
Yeah, for sure. So I'm the parent of a six-year-old child, and my ex-partner and I did something kind of unconventional, which is that we used a neutral pronoun for our child until she was 5 years old and told us that she identified as a girl. And I think that that for me was like my way of trying to free her from these constraints of like the binary like gender paradigm, but also from sexism and the like heteronormative imperative. And so that it was really like amazing to be able to like see a child grow up without having these expectations. Of course, she's still very young, and I think I really was expecting that, like, you know, well before the age of five, she would strongly identify with one gender or the other or as non-binary. And it was really amazing to see how much she didn't care at all. And
like, would you talk about it?
Or? Absolutely. Yeah. You know, from a very young age, we told her, you know, we're using a gender-neutral pronoun for you until you tell us which pronoun you'd like us to use, or if you'd like us to continue using this one. So it's completely, you know, up to you to tell us. And for many, many years, she just was like, I don't care. And it was kind of amazing to see that, you know, I've met children at the age of two who are like, I identify as trans, like my identity is like different from how I was assigned at birth. Obviously not using that language, but like really, really clearly having this identity that they felt strongly about. And the ones I encountered had parents who were very supportive, but I found it really interesting that like so many years later, my child still like, it was as though she'd never thought about it until I asked. And when I asked, she was like, why are you asking me this? Like, who cares?
That is pretty amazing. Yeah. Considering like, you know, as soon as you're pregnant, people are asking you, is it a boy? Is it a girl? As soon as it comes out, was it a boy? Was it a girl?
Totally. Right? And even the fact that people still use the word gender to talk about the genitals of a fetus when gender is identity, it's not anatomy, you know? And so like, of course, as you're saying, people are obsessed with having this information, like what kind of genitals does your fetus have?
Yeah.
Or what kind of genitals does your newborn who's not wearing pink have, you know? And so I think that for me, alone time 19 is like really about that. It's about this idea of like how much we gender our children and how much our identities are like impacted by the way that our parents and society has gendered us. And of course, when you identify as trans or non-binary or like outside of the gender binary, then it's like you're pushing back against something. And to be able to see a child discover her own identity without opposition is really amazing and really interesting. And I think that, like, you know, beyond that, your question about the way that the outside world has impacted that, I think that on a really like basic level, just trying to find a daycare for my kid when she was 1 year old, visiting many different places and actually like encountering homophobia at every single place we visited was really like shocking and eye-opening.
Oh, yeah.
And subtle homophobia, but definitely homophobia. And a friend of mine, an acquaintance, reached out to me this morning to ask me about exactly that, that he brought his child to a daycare to try to like, you know, see if it was a good match, and was immediately confronted with a kind of like not hostility, but like confusion and like surprise by the fact that this child had two dads. And so, you know, there's so much progress, but there's also like a lot of stagnation in a way that's pretty surprising. But I think something that is like very, there's like, you know, room for optimism is that, like, as you're saying, the new generation of children are so much more open-minded than even we were. And I think there's still a long way to go for our generation and the generation above us or generations above us. But I think younger people are just like so much more open-minded in this way that seems, just like very hopeful for the future. And even, you know, like the children that my child is in school with are not always gender conforming, and that so far, like the level of kindergarten has seemed like completely not an issue in the school or with the other children. And that's really heartwarming to see.
Yeah, that's good to hear. I wanted to ask you a bit more about how you think this kind of change happens. Obviously, perhaps one of the reasons kids are more open is that there's more conversations, There's more images, there's more TV shows with queer characters. There's, you know, it's more out there, so Therefore they're more familiar, and people, parents and some teachers are bringing it into the classroom to talk about through books, etc. So we know that that's part of it. But do you have any other thoughts about how things change in society, how we can help bring the change along too that we're looking for, the change of like a more inclusive society?
Yeah, I think that I don't think I've ever like changed anybody's mind by like arguing with them, you know? And so I think that there are people who are bigoted, and that will always be the case. But I guess I think that people who identify as open-minded but might be very misguided or be very like stuck on the way that other people's identity might impact them, I think those people, there's so much room for transformation. As I said, like arguing hasn't, in my experience, hasn't like changed anybody's perspective. But I hope that my images can do that and can have that kind of impact. And by making myself vulnerable and my friends vulnerable, I'm hoping that there is a space for people to access something in their self that is like compassion and reflection. And I think in Alone Time and Switch especially, I'm really hoping that people will like call into question their own assumptions and ideas about their own identity.
What kinds of reactions have you received from either people in the queer community or other people that are not part of the queer community but have spoken to you or somehow given you feedback?
Yeah, I mean, I've really received like overwhelmingly positive feedback, and I think I'm very lucky that that has been the case, that if there's people who hate my work, they haven't told me about it. I think, you know, in this day and age, that's pretty rare.
Yeah.
That people are, especially with like anonymity of the internet, people feel like completely like emboldened to tear other people down.
Yeah.
And luckily for me so far, that hasn't been the case. I was in my exhibit a few weeks ago, and there was a person showing the exhibit to her father, who I assume was in his like 80s or 90s. And the person giving this kind of impromptu tour was maybe in her like 60s or 70s. And from what I could tell, neither of these people, you know, identified with the people in my work, but we're both just so excited about the exhibit. And the person giving this tour to her father said that it was the 7th time she'd been to the show. And for me, like, I was so moved to see that these people who maybe have no context for my life could be moved by my work. And of course, the idea that I might be somehow like giving queer and trans people a kind of validation, or maybe that I could like make images that will affirm somebody's identity. Like, for me, that's my ultimate goal. But I also am like so moved by the idea that my work could be interesting or accessible to people who don't have any context for it.
Can you share anything that you're thinking about these days? Future work or seeds of future work?
Yeah. Good question. I have a video piece that will accompany my Alone Time series that is brewing. Okay. It has not yet been executed, but it will be a collaboration with a musician who I've photographed and who I'm close with. So it will be some kind of somewhere between an art video and a music video.
Oh, exciting. Cool. Thank you so much for sharing your thoughts.
Yeah, my pleasure. Yeah. Really my pleasure.
That was artist J.J. Levine speaking about his exhibition, J.J. Levine, Queer Photographs, on at the McCord Stewart Museum in Montreal until September 18th. You really don't want to miss seeing this one. The photographs are gorgeous, and they're very effective in stimulating food for thought about identity and gender representation. I want to thank JJ for taking the time to walk and talk me through his work. If you're interested, you can, of course, find more information about Levine's work on his website,
www.jjlevine, that's JJLEVINE.com. For Future Is Now, I've been your host, Caroline Künzle, saying goodbye for now.
You've been listening to Future Is Now, a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Gallery's Sharzad Arshadi and Caroline Künzle. This project was made possible by funding from the Canada Council for the Arts.
Future is now.
It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, professional, student, and community productions in and around Montreal. The island also known as Jojage in the Ganyagaha language and Muniang in Anishinaabemowin, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah DeA, live in studio on Thursday, January 11th, 2023. A very happy New Year to you. I hope you're dealing with it well. Beautiful snow falling outside this Thursday evening. The New Year is always a quiet time. It's a quiet start to the year, but there's a lot of arts waiting for you just around the corner. On tonight's show, we take a look at some theater happening later this month in the city, but we're also going to take a break from the snow for a moment and take you to sunny Florida, where we will, for a few minutes, speak with two fringe artists from Montreal who've escaped winter and they're gearing up to present their shows at the Orlando Fringes Fest N4 this weekend. Kenny Struli of Malunderstood, Anton Golikov of Raise the Stakes is Caught will join me in just a couple of moments. Then, choreography for A Leaky Body. Lara Unjian's multisensory piece, Leaky Mediations, is an homage to the complexity of female sexuality. It is a very wet dance show, and it comes to Lesha